consacrée aux métamorphoses du poème. Et notre première table ronde est sur les langues de France en poésie. Nous recevons Ixaro Borda, qui est basque, Aurélia Lassac, occitane, Thierry Malot, créole antillais, Lucien Suel, picard, et le températeur Pierre Drogy. On ne sait pas trop quelle langue de France en poésie il parle. Mais je cède la parole à Pierre Drogy, qui est le températeur de cette rencontre.
Merci Vincent. Vous m'entendez là? Il fonctionne là? Non.
Peut-être le partager alors sur le plateau.
Allô, allô.
Oui, ah, si, si, ça fonctionne.
Oui, si, ça a l'air de fonctionner.
Pas le mien. Ah, si. Bien.
Alors, je vais faire une rapide présentation des enjeux de ce débat qui devait s'intituler au départ Langue régionale et qui est devenu, comme vous venez de l'entendre, Langue de France en poésie. C'est intéressant parce qu'à la fois, il va y avoir la confrontation entre des langues dont il est déjà difficile de les nommer, parce que langue régionale, c'est peut-être pas un bon terme déjà pour les désigner. Donc, on s'interrogera peut-être sur la façon d'appeler ces langues et de les situer par rapport à d'autres langues. Alors, il y a des langues très différentes qui seront en présence. C'est à la fois un aspect carpe lapin, mais je crois que c'est l'aspect intéressant de l'affaire, puisque nous avons donc le picard, qui, au XIIIe siècle, était la langue dominante par rapport au francien. Bon, ça, il y a une inversion intéressante. Nous avons le basque, qui est une langue quand même tout à fait à part, linguistiquement même. Nous avons l'occitan, aussi un autre rapport au français, et le créole guadeloupéen, j'y arriverai, qui est également, voilà, il va y avoir des rapports différents aussi au français, c'est un problème intéressant. Donc on va essayer de faire ça en deux parties, une partie consacrée au statut des langues, et puis évidemment choisir de créer dans une langue régionale, minoritaire, ou je ne sais comment l'appeler. Ça implique un certain nombre de choses, peut-être de s'auto-traduire, peut-être de trouver des ruses par rapport au public qui n'est pas, qui ne parle pas cette langue. Voilà, c'est donc le problème de la création. Donc on va essayer de faire une table ronde en deux parties, le problème linguistique proprement, et puis évidemment on insistera sur l'aspect création dans une langue voilà, minoritaire ou du moins qui n'est pas de grande circulation. Alors, je vais peut-être vous laisser vous présenter, ou vous voulez que je donne quelques indications biographiques, c'est peut-être pas utile. On avait décidé finalement, peut-être commencer par ça, de vous faire entendre chacune des langues. Je pense que c'est peut-être la meilleure façon voilà, de se plonger dans le débat. Pardon ?
On commence par la plus bizarre.
On commence par la plus bizarre. Alors on va laisser Ixaro Borda commencer. Oui, quelques minutes.
Donc on va commencer par la langue la plus bizarre. Une langue qui est un ersatz de langue ancienne dont on ne connaît pas l'origine et dont on n'est pas sûr du futur. C'est la langue basque. C'est une langue qui nous habite, qui nous transporte loin dans le passé, qui nous enracine dans le présent et qui nous laisse des façons de se comporter linguistiquement pour l'avenir aussi. Alors c'est une langue très poétique. Je vais lire en basque et puis après je traduirai en français. Amaren iria. Oroituniz haurreko udaren beroaz. Etxepeko errekan zagonu arteaz. Aratsalde lainotik amak generoaz estiki eman zaukun irakats arteaz. Mahaia feminino, hatxa maskulino, frantsesa jakin behar duzie lehenik. Euskaraz egin dugu beti orain dino. Ez dut nahi eskolan jasaitea penik. Anaiak eta biok, mintzairaren zama, erderaz deus ere ez ginuen ulertzen. Nola ehontziko gira besteekin ama. Isla higatu dela, dena dute dertzen. Baina amazenaren irriak narama, generoen kontua dudala uertzen. Je me souviens de la torpeur estivale, de l'île et de la rivière longeant la maison, de la simple leçon sur le genre que nous donnait maman par un après-midi calme. La table, c'est féminin, le souffle masculin. Vous devez maintenant apprendre le français. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé qu'en basque. Je ne veux pas que vous souffriez à l'école. Mon frère et moi, oh le poids de la langue, nous ne comprenions rien à cette langue. Maman, qu'est-ce qu'on fera avec les autres ? L'île a disparu et j'enjolive tout. Mais le rire de ma mère m'emporte quand je parle en troublant les genres. C'est un petit hommage à Judith Butler aussi dans le même temps. Outside Nago has been by no has been but by sick as nice or indicere. En e poesia asoziala dela dinotzut outsidera deitzen zaitudan bitartean. Ez dut laudoriorik nahi, basamortuan oihuz dabilan ahots ibiltaria baizik ez naizelako, oraindik ere. Ene poesia asoziala dela diotsut. Ez dut ezagupenik nahi, ez egun, ez bihar, ez etzi. Basamortuan kantari dabilan sakrifikatuaren itzal alderaia baizik ez naiz, oraindik ere. Oraindik ere, ene poesia asoziala dela diotsut. No future outside, no future outside. Ahantzi dezatela ene poesia asoziala, gure amen izerdiak ahantzi dituzten bezala. Je suis outside, plutôt débutante encore que has-been. Je te dis que ma poésie est asociale quand je t'invite outside. Pas de louange pour moi, puisque je suis toujours la voix nomade qui perce dans le désert en criant. Je te dis que ma poésie est asociale. Pas de reconnaissance pour moi ce jour, ni demain, ni après-demain, puisque désormais je suis l'ombre nomade du sacrifié qui crie dans le désert. Je te dis que ma poésie est asociale. No future outside. No future outside. Qu'ils oublient ma poésie asociale, comme ils ont oublié la sueur de nos mères. Amen. Un poème pour montrer comment la langue hyper dominante en ce moment entre très bien dans la langue basque. Voilà, c'est juste un élément de plus dans notre grammaire et dans notre syntaxe. Vuste, c'est un poème en l'honneur de Anselm Kiefer. Et c'est aussi dédié à une jeune fille de Évry que j'ai rencontrée une fois au cours d'une semaine de poésie, d'atelier poétique dans un lycée professionnel du côté des Olympiades à Évry. Peut-être que vous connaissez. En tout cas, ça n'a rien à voir avec notre environnement quotidien à Bayonne ou au Pays Basque. Mais c'est un super endroit pour vivre et pour apprendre. Atzo, jartzeko baliatzen genuen abarra, motzarazi zaukuten. Gure erorketaren hobendun bakarra garela diote. Hobendun bakarra garela diote. Gaur, oiana gordetzen duen zuhaitza, erotik kentzen dute. Aterbe gabeak bilakatuko garela diote. Bilakatuko garela diote. Bihar pagadi zurbila suntxituko dute. Eta hautsa baizik ez da geldituko. Besterik ez omen dugula merezi diote. Ez omen dugula merezi diote. Desertuaren minean, zur eta lur geratuko garenean, egurra emango digute. Eskaila oinpean ibiltzen ikasiko dugula diote. Eskaila oinpean ibiltzen. Hier, il nous incitait à couper la branche sur laquelle nous étions assis. Nous sommes seuls coupables de notre chute, disait-il. Seuls coupables de notre chute. Aujourd'hui, il déracine l'arbre qui cache la forêt. Nous deviendrons des sans-abri, disait-il. Des sans-abri, disait-il. Demain, ils détruiront la retraite hallucinée et il n'en restera que des cendres. Nous ne méritons rien de mieux, disait-il. Rien de mieux, disait-il. Au cœur du désert, quand nous serons bouche bée, ils nous feront tâter du bois. Nous apprendrons à errer avec une écharde sous le pied, disait-il. Une écharde sous le pied, disait-il. Mileshker, merci.
peut-être continuer par Aurélia Lassac qui va lire cette fois-ci de en occitan. Peut-être préciser quel occitan d'ailleurs.
Oui, alors, en effet, l'occitan étant demeuré pluridialectal, j'écris en langue d'Ossien. Donc le langue d'Ossien, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre la Gascogne et la Provence. Voilà. C'est le centre de l'Occitanie. Bon, je prends en cours de route mon dernier recueil. C'est un dialogue poétique entre un homme qui s'appelle Ulysse et une femme qui n'est pas nommée. Elle, d'où nommer un nom, Ulysses, d'où nommer un nom que te posco espera, serai aqui, y aura l'umiral. Anendaisa passala, l'udisi en utsita, almens parli utsita, un pau. Parlaren de tu, yeu e l'autro, al dedin del miral, la ricciunarai a chi, sempre de galis, al ras d'un ocadiero, al biais des ausels, am la dulu di maqueiso, per me pa perdre da quel custat del miral. L'umati, portarai mus pendent d'aurelios, l'userverai mai beleu al liec, se me debios susprene al mitan de la nuec, ma sei pa de nu, così saupre calo d'entrello uieu bellio. Elle, donne-moi un nom, Ulysse. Donne-moi un nom que je puisse t'attendre. Je serai là. Il y aura un miroir. Et nous parlerons de toi, moi et l'autre, au-dedans du miroir. Je la rejoindrai là, toujours un peu de biais, au bord d'une chaise, à la manière des oiseaux, avec la douleur dans ma cuisse pour ne pas me perdre de ce côté du miroir. Le matin, je porterai mes boucles d'oreilles. Je les porterai peut-être même au lit, si tu devais me surprendre au milieu de la nuit. Mais si je n'ai pas de nom, comment savoir qui d'elle ou de moi veille ? Ulysses, te dona un nom, te dona un nom, cambalos din un negre, din de carrieros desertusos am de gran gusses, te duna un nun cambas a la riviero entengudo de nuec en innura los homes que se sun perduts en te cresens asi. Tu frirai di ranches, e per lus pela un cutel pa mai gran que lu pusse, un cutel d'ivori caurai raubatta prep la battaglio. Lo present d'un defu a un autro fenno, e te caldrà pensar a ello, a sus lençol fret, al trauc di sapoccio a la plaça del cutel. Tu frirai de bruts d'ervos, che crei su, e se chilion come de sentinellos, al chi te più un saccavo la fucido. Ulysse, te donner un nom? Te donner un nom quand tu danses dans le noir, dans des rues désertes avec de grands chiens. Te donner un nom quand tu vas à la rivière en tenue de nuit, sous un grand soleil, ignorant les hommes qui se sont perdus en croyant te saisir. Je t'offrirai des oranges, et pour les peler, un couteau pas plus grand que le pouce, un couteau d'ivoire que j'aurais volé après la bataille, le présent d'un défunt à une autre femme. Et il te faudra penser à elle, à ses draps froids, au trou dans sa poche, à la place du couteau. Je t'offrirai des brins d'herbe que j'aurai gardés longtemps sous ma semelle, qui poussent là où reposent les corps et se dressent comme des sentinelles au point précis où s'achève la fuite.
Je propose de continuer le voyage par la Guadeloupe et de revenir à la Picardie pour finir comme un voilà, grand voyage.
Okay, bonsoir à tous et à toutes. Le premier texte que je vais vous dire s'appelle Thème et Version. C'est un texte qui, justement, se joue de la différence entre les deux langues. Donc, d'abord, thème. Donc, thème, c'est quand on dit dans la langue de l'autre, et version, c'est quand on dit dans sa propre langue. Donc, d'abord, thème. Dubois, allant au bois chercher du bois, n'en trouva pas. Il voulut prendre le bois du pantin de bois, mais à son grand désarroi, le pantin de bois lui tomba à bras raccourcis sur le bras, à coups de petits bois. Dubois, aux abois, courut à travers bois, grimpa à un arbre, tomba sur son bras qu'il brisa, mais parvint, néanmoins, à quitter le bois. Donc ça, c'est thème. Et maintenant, version. Et donc voilà pourquoi le créole, c'est mieux. Le texte que je vais faire maintenant, c'est mon texte fétiche. C'est le texte que je fais quand je ne sais pas quel texte faire. Il s'appelle Parole. Parole à coq à belle pose. Parole poétique, parole stylistique, parole... En oreille à jeune fille, pour faire y voir la vie en rose. Parole fleurie, fleurie qu'on mal papaye, pas j'ai pour tes fruits, pas même mon seul fruit, à dans toute ton vie. Parole qu'a amené parole, parole qu'a langané en bas chivé permanenté. Parole défrisée à la soude, paraît à rendre vous soude, tellement il pas arrêté. Parole à nom qui en rompt, mais qui sous. Mais il pas perdre la carte en bon parole plate à nom pouzolan, qui roi pouzolan, débrouillon, bouillon là, c'est le couillon là. Parole à blague, madrague, en bas sous. Parole à défrant, trois sous. Qu'a fait mon marché, bon marché. Bon marché qui a coûté cher, parole en bouche, pas charge. Parole qui pas charge, c'est parole flow. Et mon parole flow, coup parole à yo. Parce pour moi, parole à l'homme, volume. Et un mot, c'est un mot. C'est un mot. Un mot.
On peut déjà se demander si la poésie ne fait pas entendre la langue réciproquement dans ce genre d'exercice que nous venons d'entendre. On va donc terminer par Lucien Suel.
Oui, bonjour, chez Jean. Je vais vous lire juste le tout premier poème que j'écris en picard. En fait, je ne sais pas si je l'ai déjà lu en public. Et là, ce sont mes œuvres complètes en picard, hein. Quand même. Donc le tout premier poème écrit en picard, ça, c'était en 1998. C'est le poème qui donne son titre au recueil. « Du qui sont chez Vio ?» Il y a longtemps de choses, j'ai donné un coup de main à mon oncle pour le naissage d'un Vio. J'avoue à mon oncle Saint-Cier. À cette heure, il est mort. Et je me rappelle tout dit, à vous, ces deux tchiottes pattes qui dépassotent des vagins des smères, chez pattes des chevios. Et même mon oncle, il s'appelait Mimi. J'ai tout mon oncle Mimi et sa vrai nom, j'ai tout Barthélémy. Il y a vos louillés chez pattes avec des grosses cortes. Et mi, j'sacco avec lui. J'sacco. Elle vaque, elle avoue du mot. Mais elle dit Jorin, chez toi une vaque hollandaise, blanche et noire. Et puis tout d'un coup, chaillé, v'lo j'vio qui sort, v'lo qui glisse, il queue dans le pâle et puis s'armait debout tout un traînant. Je ne sais pas si c'est tout de frou ou qu'il n'a pas encore bien l'équilibre. Après, comme qu'il est tout à relever, on a délouillé chez Fichel. Puis chez le vac, elle a passé slank et des heures sans pitié. Chez au fin bio de Virchaud. Mi, quand que j'ai tout jaune que j'arvéno de l'école, je raviso chez Vio d'un chez Pâture. Quand que j'ai tout moins jaune, je raviso chez Phil, qu'il faut d'un chez Pâture. À cette heure que je viens vieux, j'arrête chez Vio que je voudrais raviser. Mais ils sont mis plus d'un chez pâture, tout chaud, chez fini. À cette heure, chez Vio, ils sont affreux, terre tous des clones. Et puis, des fils, un avo plus gramma non plus d'un chez pâture. Plus de Vio, plus de fil, plus rien. Bon, je ne le lis pas en français parce que finalement, le Picard, c'est ce qui a précédé le français, donc tout le monde a dû avoir compris. Vous avez compris, déjà ? Bon, je lis juste un deuxième. Ma grand-père, Fleury Verbruche. Il y a un exergue, mais chez Pont du Picard. Quis est homo qui non fleret. 1. Quand quel juge y a rentré d'un tribunal, chez Jean, ils sont élevés. Ils ont annoncé je verdict, elle mort. Avec un bio sourire, chez le sage-femme, elle a dit c'est un garçon, un gros garçon. 2. Saint père et sa mère, ils l'ont baptisé Fleury. J'ai encore un oncle, un dono souvent des Ch'talots, un étau à 1896, d'un coin-là, d'un pays de la Lys à Averskirk. Trou. Ça a été la guerre. Classe 16, il y avait été blessé à Chemin des Dames. À côté de lui, à l'hôpital, il y avait un tirailleur sénégalais. Un zout de Saint-Ly, d'un smusette, il y avait mûché le tête d'un boche à mi-temps pourrit. 4. Quand que la guerre allait s'affiner, après qu'ils ont jeté but tout chez Seyo de Pinard et de l'amnistie, il a rencontré Rachel. Ils ont fréquenté et s'est marié avec. 5. Youvro à l'usine d'Iberk, à l'Tollerie. Il décarque chez wagons de coque et puis de minerai. Des wagons de 40 tonnes avec ses camarades. Ils avaient des casquettes, un coton bleu. Le kémiche à toile avec le manche enroulé sur le bras. Avec ses grosses veines bleues aux heures de la main. 6. Fleury attrape un sué. Chacoulo un dessous des casquettes. Il réchuit aux figures avec sa grand mouchoir à carreaux violet et puis blanc. Il racco à coude à ses mains. Il reprend nos spells. 7. Il a dû se faire opérer de la colonne vertébrale. Il a resté plus de trop mots rallongés dans sa lit. Rachel, elle avait glissé une planque, un dessous de sa matelas, un dessous de ses reins. Huit. Tous les dimanches, à ce cabaret, il joue à cartes, à le manier le coinché avec ses camarades, ouvriers, puis avec chez Saint-Cyr. Il buvote un père et de pernaud. Fleury, chez Serveuse, elle la vaut de guerre. 9. J'ai été la retraite. Rachel a eu un atteinte, elle ne pouvait plus bouger. Chez Fleury qui conduit Joe dans sa fauteuil à rôle. Au soir, il met au Rachel dans sa lit. Et puis, elle est morte. 10. Une paire d'années après, j'ai été Saint-Tour. Il y a Gramma maigri, un zou d'esquémiche, je t'ai pouvé vivre chez Zoche et de ses gampes. Des lpio, des veines, des Zoche. 11. Ce sali de mort, elle y a vomi sa biopalto à l'énache noire. À Zor, elle avait accroché ce médaille de Légion d'honneur. Ses dos, tourettes, ils étaient croisés sur ce drap blanc à midonné. Douce. Je crois que mort, il y a Allemagne Candel. Il a fait guerre de le bougie fondu dans le fond de Cherkel. Après choc, sa commis, ils ont prache cadavre, ils l'ont mis dedans, infremé. 13. Fleury est parti d'acheter le camionnette noire, chez Oliver, il caillot de le neige. 14. Dans le caveau, chez Zoche, ils sont tous amêlés. Il n'y a plus de veines, il n'y a plus de pio. Il y a Fox ses yeux bleus à Fleury, qui ravissent chez Goudio, qui cut des couvercles, des cercles.
Alors, pour ouvrir peut-être la table ronde à présent, est-ce que vous pourriez justement parler du rapport au français de chacune des langues qu'on vient d'entendre ? Parce que c'est un rapport très différent. Il y a un rapport de familiarité ou de proximité plus grand avec le créole ou le picard, peut-être qu'avec l'occitan. Il y a des connotations autres aussi. L'occitan est quand même associé à une poésie médiévale, par exemple. Donc, comment vous situez, quel est le statut de cette langue, comment vous l'appelez, voilà. Aborder à la fois le problème sous l'angle social, politique, et puis voilà, parler un peu de ces langues qui sont finalement pas tellement entendues.
Je peux continuer dans la foulée. En fait, pour moi, le picard, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, ça a commencé vraiment à exister dans les années 90. Parce qu'avant, cette langue, ce n'était pas du picard, c'était le patois. C'était le patois qu'on n'avait pas le droit de parler à l'école. Hein. Et je n'ai jamais pensé qu'un jour, on m'aurait dit que ça s'appelait le picard, et puis que je lirais devant un public au marché de la poésie. Hein. Ça, c'est tout à fait certain. Donc, pour moi, j'ai fait vraiment la rencontre avec le picard à partir du moment où j'ai rencontré un poète picard comme moi qui s'appelle Ivar Jvavar, qui est né à Berck, dans le Pas-de-Calais, comme moi. Et à la fin des années 70, on correspondait parce qu'il faisait une revue. Et il m'a envoyé un texte, renéoté à l'alcool, vous savez, couleur bleue, là, sur du papier. Et ce texte s'intitulait « Schlark angélique ». Et voilà. Ivar Jvavar, il avait traduit le poème de Georges Bataille, « L'arc angélique » en picard. Alors, c'est là que j'ai fait la connaissance avec le picard poétique. Et quelques années après, il a créé une revue qui s'appelait « L'invention de la Picardie », dans laquelle il y avait aussi des traductions littéraires et des poèmes du picard qui remontaient au Moyen-Âge. Par exemple, « Les vers de la mort » d'Elinan de Froidmont, etc. Et j'ai quand même encore mis au moins une dizaine d'années avant d'écrire mon premier poème en picard, celui que j'ai lu, « Duquisson chez Viau ». Et on m'a dit que Ivar Jvavar, quand il a su que j'avais écrit ce poème en picard, il n'a bré. Il en a pleuré, voilà.
Oui. On va peut-être continuer donc ce parcours des... Enfin, une question peut-être, quel sens ça prenait de réécrire en picard ou de... Voilà.
Pour moi, c'était compliqué parce que, si vous voulez, pour moi, le picard, c'était uniquement oral. Donc quand j'ai voulu l'écrire, j'ai écrit en phonétique, quoi. Hein, et même en collant les mots. Hein. Par exemple, les autres musiciens aussi, ils avaient monté le son. Les autres musiciens aussi avaient monté le son. Vous voyez, je collais tous les mots ensemble, comme un truc, un groupe de souffle. Voilà. Là, pour le recueil, j'ai écrit un picard qui se rapproche beaucoup de la syntaxe française, parce que c'est un recueil qui est censé avoir une grande diffusion, donc... Et je veux dire, c'est des œuvres complètes quand même.
Voilà, on abordera aussi cet aspect-là du public. On va peut-être passer tout simplement voilà, au basque.
Et à Charo, oui, le basque, oui. Ça a été classé aussi dans les langues intolérantes par Barrer, qui avait fait une grande classification au moment de la Révolution. Là. Le bas breton parlait l'intolérance, etc. Bon, bref. C'est passé aussi dans le genre patois. Voilà. Nos parents, nos grands-parents ont eu aussi l'interdiction à l'école d'utiliser cette langue. Ils ont intériorisé la honte de cette langue, parce que quand on parle basque, quand ils parlaient basque, ils se sentaient plouc. Ça, c'est un mot breton qu'on utilise en français pour nous qualifier. Voilà, donc c'est la haine qui est reporté dans la langue du subalterne, dans son vocabulaire. Voilà, on était des poulouks. Donc après, dans les années 60-70, il y a eu comme un renouveau, poussé par des élans politiques derrière, mais qui ont utilisé la langue comme façon de civiliser un peu, entre guillemets, cette renaissance. Voilà, il faut dire que la langue basque s'écrit depuis 1545. Le premier livre, c'est Primitiae Linguae Vasconum, qui était publié à Bordeaux par un curé, une espèce d'érudit, de côté Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, c'est dans les montagnes piémont-pyrénéennes. Donc depuis cette époque-là, on écrit en basque, en fait. Et on a eu des très grands auteurs. Il y a eu Alain de Huyenart, il y a eu aussi Jean de Sponde, qui fait aussi partie de... On l'a lu chez La Garde des Michards. On l'avait dans les anthologies de La Garde des Michards, parce qu'il écrivait dans les deux langues. Après, il y a eu toute une époque de littérature religieuse, de imitation de Jésus-Christ, etc., qu'il y a eu sûrement eu aussi en occitan et peut-être en créole aussi. Puisque c'était le seul terrain qui était autorisé aux langues régionales. À ces patois, c'était le terrain de la religion. Il fallait que ça reste privé. Voilà. La laïcité ne pouvait pas supporter les langues régionales. Et d'ailleurs, c'est un peu dû à Victor Hugo, puisque lui, il disait le basque, pour eux, c'est une religion. Donc, on était avec la loi de 1905... Je crois que la langue basque devait complètement disparaître du domaine public et ne rester cantonnée qu'aux religieux. Donc, comme j'ai dit, C'est à partir des années 60 qu'il y a eu un revival. Et ce revival, je crois qu'il a commencé entre exil et exode. Il n'a pas commencé sur place, au Pays Basque, ni nord, ni sud. En fait, ce sont les exodés ruraux du Pays Basque nord et les exilés de 1936 qui se sont retrouvés à Paris, tous, qui se sont retrouvés à Montevideo, qui se sont retrouvés à Caracas, qui se sont retrouvés aux États-Unis, qui ont commencé à pousser cette reprise de la langue basque en tant qu'instrument littéraire. Ensuite, des grands noms que vous connaissez, que vous pouvez trouver dans les éditions en français, comme Bernardo Achaga, Kirmen Uribe, principalement. Dans ma génération, on est plusieurs, on est des femmes aussi, surtout, on est venus, parce que c'était très masculin. Le monde des langues régionales aussi, c'était très masculin, c'était très curé et très masculin. Voilà. Donc les années 80 ont permis de faire exploser ces caractéristiques. Ça s'est féminisé. Par exemple, au Pays Basque aussi, il y a eu un autre phénomène qui a permis que cette langue devienne presque une langue nationale. Puisque c'est vrai que c'est des deux côtés de la frontière, il y a un seul pays qui a une seule langue. Après, peu importe si on a plusieurs nationalités ou plusieurs formes de carte d'identité. Nous, c'est la langue qui nous constitue. C'est en fait... Ça, c'est assez extraordinaire. Je crois que les Catalans aussi ont le même cas de figure. Les Bretons aussi, avec leur pays celtique, gaélique et irlandais et tout ça. Bon, voilà. Donc, la langue fait pour nous quelque chose, un lien émotionnel, linguistique, culturel, littéraire, poétique entre tous les habitants de cette zone qui s'appelle le Pays Basque, où il y a 6 pays, il y a 6 dialectes aussi. On pourrait dire, si on se mettait dans la position du français, il y a 6 patois, hein, puisque voilà, ce sont 6 dialectes différents, mais il y a une langue unifiée depuis 1968. C'est dans cette langue unifiée que nous écrivons, et c'est peut-être grâce à cette langue unifiée qu'il y a eu la possibilité pour des jeunes laïcs, comme Bourdieu dirait, des clercs, hein, des universitaires, des... Voilà, parce qu'il y a eu tous ces phénomènes, ces changements sociologiques aussi qui ont impacté le monde de la création basque, voilà, qui a permis aussi la féminisation. Voilà. Donc on se trouve en ce moment avec une langue en France qui n'a aucun statut, voilà, puisque article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République. Bon, il faudrait juste ajouter, entre parenthèses, sans porter préjudice aux langues régionales. Voilà. Je crois qu'il y a déjà, dans la Constitution, il y a une liste de langues de France qui devraient ne plus être considérées comme des patois et qui devraient ne plus être dévalorisées comme ça l'est en ce moment, puisque on parle en basque, on parle dans une langue, je ne sais pas moi, en picard ou en occitan. Souvent, quand on écoute les locuteurs, on a un petit sourire aux lèvres en se disant « Ouais, ça, c'est des gens de l'ancien temps. » C'est des gens qui ont une langue qui se parlait autrefois dans un pays idéal, dans des pays idéal, des Arcadies, de monde rural, etc. Alors que ce sont, et je crois que dans notre cas c'est évident, ce sont des langues qui sont actuelles, ici, maintenant, qui prennent tout ce qui se fait ailleurs dans d'autres langues, puisque nous on a une chance aussi, c'est qu'on est entouré, bon, c'est ça, par le. On est entouré, puis on est. On est inondé par différentes cultures. On est par la culture française, la culture espagnole. Puis au-dessus de tout ça, il y a la culture anglophone. Donc on est là dans ce milieu, dans ce golfe de Gascogne qui est assez extraordinaire comme paysage. D'ailleurs, je vous invite tous à y aller. Voilà, il y a plusieurs paysages différents. C'est vraiment à l'image de ce que nous sommes. Il n'y a pas d'officialité. Le basque n'est pas reconnu en France, mais c'est langue officielle en communauté autonome, c'est-à-dire Saint-Sébastien, Bilbao, Gasteiz et Pampelune. Voilà. Donc nous, on rentre avec eux sur le même bateau et dans la même expérience culturelle et littéraire et poétique.
merci. Je crois me souvenir que dans le Don Quichotte, les Biscayens sont pas très bien vus non plus côté espagnol, la caricature du serviteur biscayen violent, sert à faire rire dans l'un des premiers chapitres du Don Quichotte.
Ça fait très longtemps que les Basques sont pas très bien vus, parce qu'ils ont quand même une sacrée gueule dans leur petit golfe de Gascogne. Voilà, ce sont des grands navigateurs. Par exemple, si vous allez en Islande, n'hésitez pas à visiter l'Institut Árni Magnússon et de demander. Il y a deux manuscrits. Ce sont des lexiques basques islandais, des guides de conversation du 16e, 17e siècle, qui ont permis de la communication entre les Islandais et les Basques. Voilà. Après, les Islandais ont massacré des Basques et les Basques ont été interdits d'accoster en Islande jusqu'à il y a très peu, jusqu'en 2015. Le Parlement irlandais a effacé cette clause comme quoi si un Basque débarque ici, vous l'abattez. Voilà.
Alors, on va rester dans la proximité géographique. Je crois que vous avez fait une thèse de doctorat sur le théâtre occitan du XVIIe siècle. Donc là, il y a une grande tradition écrite. On est peut-être dans un cas un tout petit peu différent, encore que apparemment, c'est une certaine oralité aussi qui s'exprime dans.
Géographiquement, c'est tout le sud de la France, le Val d'Aran en Espagne et 12 vallées du Piémont. En Italie. C'est-à-dire qu'à l'ouest du Piémont, on parle occitan, et à l'est du Piémont, on parle piémontais. Voilà, c'est pour dire que géographiquement, ça va de l'Espagne à l'Italie. Alors, il y a une tradition littéraire qu'a priori tout le monde connaît, c'est-à-dire quand même la poésie troubadouresque qui a influencé toute l'Europe. Que ce soit la lyrique galaïco-portugaise, que ce soit Pétrarque, Dante, tout ça. Enfin bon, voilà, les troubadours sont souvent premiers poètes européens. Et donc on a ça, on a quoi? Au niveau littéraire, de la tradition littéraire, on a effectivement au XVIIe siècle une renaissance très très forte. Donc du théâtre et de la poésie en occitan, dans des foyers qui sont plutôt urbains. Donc Toulouse, Aix-en-Provence, etc. Je vous fais l'histoire littéraire très rapidement, mais on a le prix Nobel, c'est-à-dire le deuxième prix Nobel qui a été remis à Frédéric Mistral en 1904. Voilà, donc ça fait que c'est une langue qui a, comme toutes les autres langues de France, n'a pas été nommée langue jusqu'à récemment et qui était je ne sais pas comment le dire, mais nommée patois. Pour ne surtout pas dire qu'il s'agissait d'une langue. Alors, le mot patois, c'est intéressant parce qu'il apparaît. Enfin, les premières traces qu'on a du mot patois, c'est tout simplement les premiers dictionnaires du français. C'est-à-dire que, quand au XVIIe siècle, on a le dictionnaire de l'Académie, on a Furtière, etc., là, on voit apparaître le terme patois. Et je pense que c'est lié aussi au fait qu'on était vraiment en train. Ça faisait déjà un siècle. En littérature, qu'on avait la Pléiade qui voulait défendre et illustrer la langue française. Et au siècle suivant, on a ce travail sur le lexique, la grammaire, etc. de la langue française et qui va vraiment mettre à leur place ces langues en les nommant patois. Et c'est d'ailleurs extrêmement péjoratif, la définition qui est donnée des patois dès lors, avec des comparaisons avec les animaux, etc. Et donc nous sommes des oiseaux, mais ça c'est gentil. Et alors après, il y a toute la tradition orale, comme dans toutes les langues régionales, etc., qui est très très forte et qui passe par le conte, le chant, passe par la mémoire de toute manière, puisque c'est pas écrit. La musique aussi est enseignée d'une manière qui n'est pas écrite, c'est la musique traditionnelle. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire
C'était simplement la présentation
Façon dont on considère l'Occitan. Aujourd'hui, parce que là, je vous ai fait l'histoire. Alors, je vous fais très rapidement. Donc, moi, j'ai grandi dans le sud, évidemment, dans le Lot. Et moi, je suis de la génération de ceux qui n'ont pas porté la Vergogno, parce que la honte est un vrai phénomène social chez toute personne qui parle une langue de France, donc langue minorée, quelle qu'elle soit dans le monde. Et donc, la honte, les gens de ma génération ne l'ont pas parce que... En fait, on arrive après la bataille. Donc, les gens de la génération de mes parents font partie de ceux, et c'est ce dont parlait Charo tout à l'heure, qui pouvaient avoir honte de parler patois, voire d'avoir un accent en parlant français. Et des gens à qui leurs parents, donc mes grands-parents, ont pu dire « ne parle pas patois » et n'ont pas voulu leur transmettre la langue, etc. Là, moi, c'est fini. Je suis née en 83. Mon père m'a enseigné la langue, mais il y a vraiment une part de choix. Et je ne suis pas... Je l'ai appris chez moi, avec mon père, mais je ne suis pas locutrice naturelle. Je n'ai pas grandi en parlant occitan. Alors que toi, je pense que tu as grandi en parlant basque.
Oui, jusqu'à 6 ans, comme j'ai raconté. Après, j'ai perdu la langue basque. Et après, j'ai récupéré par moi-même, de façon sauvage et intempestive et aléatoire, ce qui se ressent dans ma poésie, cette langue à partir de 12 ans. Voilà.
Voilà. Bon. Donc, voilà où on en est.
Bien. On va passer au créole. Qui...
Peut-être pour situer en termes de territoire aussi, le créole... Guadeloupéen a les mêmes fondamentaux grammaticaux que le créole de Martinique, que le créole d'Haïti, que le créole de Dominique, que le créole de Trinidad, donc tout, et le créole de Sainte-Lucie. Donc tous ces endroits où, quand il y a un locuteur qui parle en créole, on se comprend. Même si ce sont des locuteurs qui, par ailleurs, ne parlent pas français à Sainte-Lucie, ils ne comprennent pas qu'on parle français, mais s'ils comprennent le créole, on se comprend. Et donc, ce qui fait, par exemple, que la musique haïtienne est très, 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 très prisée en Guadeloupe, puisqu'on comprend tout ce qui se dit. On a aussi une différence, c'est que globalement, localement, tout le monde était d'accord pour parler créole aux classes ouvrières, on va dire jusque dans les années 50-60 en Guadeloupe. Donc on n'a pas de patrimoine qu'on peut retrouver véritablement. Tout notre patrimoine a été transmis à l'oral et c'est avec la départementalisation, la loi dite d'assimilation départementale, où il fallait donc s'assimiler si on voulait accéder à la culture, hein, pas à une culture, mais la culture. Il fallait impérativement parler français. Et nos parents, voulant bien faire, voulaient faire en sorte que les gamins ils prennent l'ascenseur social, quoi, la fusée sociale même. Et donc, pour rentrer dans la fusée, il faut parler français, il faut mettre une cravate, une lavalière à l'époque. Hein, faut, voilà. Et donc, il y a un travail de la part de nos grands-parents pour que cette langue soit oubliée. Mais ils ne peuvent pas. Eux-mêmes ne peuvent pas, parce que dès que les sujets sont très proches du cœur, eux, ils parlent dans cette langue. Et ce qui fait qu'avec la déception de la départementalisation, puisqu'elle n'a pas porté les fruits qu'on en attendait, il y a une lutte qui est d'abord une lutte politique et sociale, pour dire, bon, mais puisque c'est comme ça qu'on nous traite en France... bien qu'on soit étudiant en médecine, bien qu'on soit étudiant en droit, on nous traite de cette façon-là, c'est sans doute qu'on ne doit pas être du même pays, en fait. La notion de fraternité ne doit pas nous concerner. Et à partir de là, bon, on va essayer de construire notre truc à nous et se poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'on a un truc à nous à construire? Et deux éléments de réponse arrivent très, très vite. Notre musique traditionnelle, qui est le groka, qui est chantée en créole, et cette langue, le créole, qui est au cœur, qu'on considère faisant partie de l'âme de la Guadeloupe. Et à partir de là, c'est là que tout va avoir une espèce d'explosion, en fait. Il y a une explosion dans la musique. Le groupe Kassav se crée, ils fêtent leurs 40 ans aujourd'hui et rassemblent 40 000 personnes dans les stades à chaque fois. On commence à avoir parmi les plus grands militants nationalistes, c'est-à-dire Sonny Rupert, qui a déserté l'armée française pour faire la guerre avec l'armée algérienne, qui est arrivé en Guadeloupe en dissidence, c'est lui qui est considéré comme notre plus grand poète. On a un groupe de scientifiques qui se constitue, qui dit, mais il est hors de question qu'on laisse des scientifiques d'ailleurs venir nous dire comment décrire notre langue. Donc il monte le GEREC, qui est un groupe de réflexion autour de la langue et pour faire la graphie, enfin, normaliser une graphie, normaliser une grammaire. Et c'est là qu'on commence à avoir les textes qui sont édités, l'auto-édition, une production véritablement importante, tant au niveau oral qu'au niveau de l'écrit. Donc voilà pour situer un peu les singularités du créole par rapport aux autres langues de France, puisque c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, les langues de France. On a même une délégation générale à la langue française et langue de France qui est censée s'occuper de ces langues, mais bon, c'est juste pour que Bruxelles les laisse tranquilles. Hein. Et donc tout le reste, ça s'est fait un peu comme toutes les langues de France. Un état central qui nous explique qu'on ne peut pas accéder à la culture si on utilise une autre langue que le français, qu'on est forcément idiot si on parle autre chose que le français, qu'on est forcément moche, sale, si on parle une autre langue que le français en France. Et tout ça, c'est appliqué également à nous, avec la grande différence que comme nous, on est loin, et comme nous, on est resté pauvres longtemps, et comme nous, on n'est pas blanc, il y a à la fois une... Enfin, pour l'essentiel, hein, il y a un espace qui est resté préservé pendant très très longtemps, oralement, et en même temps, un renouvellement de l'énergie à vouloir contrer ça. C'est-à-dire qu'on a beau parler français comme il faut, avec du vocabulaire comme pas possible, à nous est toujours renvoyée notre différence, là où quelqu'un qui est blanc, ben, ça pourrait glisser, quoi. Et donc ça fait qu'on est, on peut pas échapper à la confrontation chaque fois qu'elle doit avoir lieu. Et donc forcément ça fait des énervés. C'est-à-dire que j'ai interviewé un nationaliste qui me dit mais moi au départ moi je suis français. J'arrive en France, je vais au Crous et je demande une chambre et on me dit bah, monsieur c'est pas pour ici c'est pas pour vous. Vous allez là-bas. Il dit non mais là, c'est la file des étrangers. Moi je suis français, j'ai ma carte d'identité française. On l'a refoulé comme ça et il m'a dit depuis ce jour je suis nationaliste et il est nationaliste jusqu'à sa mort. Et donc, lui défend le créole, il a l'interview en créole, voilà. On a les messes en créole, on a le gros rat qui rentre à l'église, à cette période-là, dans les années 70.
Alors, il nous reste relativement peu de temps pour aborder la deuxième partie. Et moi, je vais essayer donc de rassembler en une question. Comment désenclaver les langues que vous pratiquez, qu'on va dire minoritaires, mais comment désenclaver le français par la même occasion? Et je vais ajouter quelque chose que je n'ai pas dit. Que je n'ai pas dit quand je vous ai présenté, mais chacun d'entre vous a plusieurs pratiques. C'est-à-dire, vous êtes à la fois souvent romancier, poète, parfois performeur, dramaturge, traducteur ou traductrice. Il y a donc une multiplicité, comme s'il s'agissait de passer la langue ou de la faire passer de plusieurs manières à la fois. Et bon, l'idée serait de traiter en même temps ce problème du désenclavement du français et de faire sauter ces hiérarchies imaginaires. Évidemment, hein, et intériorisé, qui pourrait même être appliqué d'ailleurs à l'allemand. Hein. Je connais le cas d'une langue qui se désigne elle-même en allemand, le patois lorrain, se désigne comme plate, mais plate Deutsch, non, ça, c'est le plate Deutsch et du Hochdeutsch. Donc même en allemand, on a complètement intériorisé cette infériorisation des langues. Alors, est-ce que vous pourriez, ben, on va prendre l'ordre inverse peut-être, voilà, rapidement, comment crée-t-on dans une... dans cette langue, et comment on joue ça avec ou contre le français?
Alors, la grande chance que j'ai, un peu comme ma voisine, c'est que moi, j'arrive... mes parents étant militants nationalistes, ils se sont rencontrés sur les terrains de bataille. Ils m'ont élevé dans la langue. Ma mère, elle part faire les courses, elle laisse un mot sur le frigo, le mot, il est en créole. Je pars faire mes études, ma mère se met à MSN, elle fait MSN en créole, elle m'envoie des mails en créole. Et donc, du coup, elle... Mes parents imposent, entre guillemets, à mes grands-parents que c'est notre langue d'usage. Donc, contrairement à beaucoup de Guadeloupéens, je parle créole à ma grand-mère et à mes deux grands-mères, à mes grands-parents, très, très aisément. Donc, cette bataille-là, on est en passe, si vous voulez, de s'en faire déposséder, parce qu'on paye la victoire. Ah ben maintenant, c'est une langue comme toutes les autres, je peux parler celle que je veux. Donc je parle français et qu'on me laisse tranquille. Les deux langues sont les miennes, donc voilà, donc je fais un français, je ne suis pas moins guadeloupéen parce que je parle français. C'est un peu le discours qu'on a, et pareil pour les artistes. Si on veut s'ouvrir, si on veut aller à l'international, il faut le faire en français, il faut faire en anglais. Voilà, j'ai envie de grandir, j'ai envie de voir le monde. Et la question se pose comme ça pour beaucoup de gens de ma génération et de la génération d'après. Là où ça me pose un problème, et donc la nécessité et du coup l'axe de création pour répondre directement à la question, c'est tous ceux qui, pour qui c'est la seule langue. Et donc, eh ben, on a en Guadeloupe le plus fort taux d'illettrisme qu'il y a dans toute la France. Parce que simplement, ces gens qui parlent, qui ne sont à l'aise qu'en créole, ils n'ont pas de roman, ils n'ont pas de texte. Quand ils ont du théâtre, c'est du théâtre comique qui essentiellement se moque d'eux. Donc, il est important pour qu'ils accèdent à la culture, quelle qu'elle soit, qu'ils aient accès aux textes de réflexion, qu'ils aient accès aux textes de création, qu'ils aient accès à un développement de l'imaginaire. Si on veut sortir de la situation dans laquelle on est, en Guadeloupe, il faut qu'on imagine une autre situation, donc il faut qu'on ait accès à l'imaginaire. D'où la nécessité pour moi et l'impératif pour moi d'aller questionner nos fonctionnements, nos travers, nos dysfonctionnements dans la langue des gens qui sont confrontés à ces dysfonctionnements. Et donc c'est d'abord ce qui arrive dans ma poésie. Et rapidement, je me rends compte que pour pouvoir pointer du doigt des comportements, j'ai besoin de personnages qui ont des comportements à questionner. Et donc, je commence à faire un concept album, donc écrire 20 textes de poésie pour raconter une histoire. Et finalement, je me mets au roman. Et mon premier roman questionne nos rapports aux femmes et la violence faite aux femmes. On est un des départements les plus meurtriers de France. Contrairement à d'autres endroits, c'est pas des morts crapuleuses. C'est violence faite aux femmes, c'est violence dans la famille. C'est là où on tue le plus de gens en Guadeloupe. Et il m'apparaît urgent d'aller questionner le Guadeloupéen, entre guillemets, et la Guadeloupéenne sur comment ils se comportent, où est-ce que naît cette violence, et parler à des gens à qui on ne parle jamais, c'est-à-dire les gens qui parlent créole.
Je vais répondre, mais je rebondis sur la question des femmes, puisque vous avez tous les deux évoqué ça. À partir du moment où l'Occitan n'a plus eu son prestige littéraire, donc on va dire après Mistral, même si c'était déjà le cas avant, mais là c'est vraiment la dernière. La langue s'est transmise essentiellement par les femmes, puisque elles étaient tout simplement factuellement à la maison, et que notamment les grands-mères s'occupaient des enfants, et que celles-là parlaient pour le coup que occitan. Voilà. Et donc, ce qui fait que toutes les générations, la génération du XXe siècle à aujourd'hui, a pu, pour les locuteurs naturels, l'apprendre souvent par une femme. Et alors, oui, la question du rapport aux langues. Alors, oui, je disais tout à l'heure que je n'ai pas la vergogne, je n'ai pas le complexe diglossique, je ne l'ai pas. Et donc, il n'y a pas une langue. Je connais bien l'histoire, je sais bien ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu une colonisation linguistique et culturelle, mais j'arrive encore trop tard, en quelque sorte, tant mieux, presque. Donc c'est-à-dire que je n'ai jamais institué le français comme l'ennemi de la langue occitane, malgré l'histoire que je connais. Donc, parce que ça aurait été très schizophrénique. C'est quand même ma première langue. Alors, voilà, j'ai adopté fait mienne cette langue occitane qui est aussi celle de mes ancêtres. Et finalement, dans mon procédé d'écriture entre l'occitan et le français, on retrouve cette forme d'harmonie ou d'équilibre entre les langues. C'est-à-dire que je n'écris pas ou en occitan ou en français quand j'écris un texte qui sera nécessairement en deux langues. C'est-à-dire que je vais écrire un ou deux vers dans une langue, je vais le traduire dans l'autre langue, et ce faisant, l'autre langue génère de nouvelles réflexions en termes de rythme, de son, etc. Ce qui fait que, sans rentrer trop dans les détails, quand j'ai achevé d'écrire un poème, j'ai un poème original en deux langues. Il n'y a pas une langue qui... Il n'y a pas de hiérarchie. Voilà.
Alors, il nous reste vraiment peu de temps, si on peut... Voilà.
Par rapport à la langue basque, je crois que là aussi, dans les années 70-80, quand on écrivait en basque, c'était un choix délibéré d'écrire en basque, parce qu'il y avait déjà un mouvement culturel très fort, avec des écrivains emblématiques, une chanson populaire très très forte qui est passée au rock'n'roll après avec des grands groupes. Aussi une culture orale qui s'est encore agrandie avec les improvisateurs. Les improvisateurs, c'est des gens qui, on leur donne un sujet et sur l'instant, ils font un poème sur un air donné. Voilà. Et donc ça, par exemple, tous les 4 ans, il y a un grand championnat qui recouvre tout le Pays Basque et il y a 17 000, 20 000 personnes qui se rassemblent pour la finale à Bilbao. C'est assez extraordinaire. Et je crois que même les matchs de foot et de rugby ne rassemblent pas autant de personnes pour dire l'intensité de cette pratique orale. Ce que je veux dire, c'est que par rapport aux Français, maintenant, on est un peu plus coulant, je dirais. Voilà. On ne voudrait pas... Enfin, moi, c'est ce que j'en suis arrivée, moi aussi, au bout de 50 ans presque d'écriture, à cette réflexion. On ne voudrait pas agir par rapport aux Français comme le Français a agi par rapport à nos langues. Être une victime peut parfois nous pousser à devenir bourreau. Bon, enfin, c'est culturel. Hein. On n'a tué personne encore. Hein. Je veux dire, ne pas faire de hiérarchie entre les langues. Je crois que le principal, c'est d'arriver à un monde en France. Et c'est pour ça que je trouve que cette table ronde aujourd'hui, je crois que c'est une première, comme ça, en public, dans un festival de poésie aussi couru que le marché de la poésie, où on parle des langues régionales ou des langues de France et de poésie et de littérature. Voilà. Je crois que c'est une grande première. Et ça peut ouvrir la voie à des réflexions qui peuvent pacifier un peu les relations entre les langues telles qu'elles ont été durant ces 200 dernières années.
Alors, la parole finale sera au Picard.
Oui, mais en fait, c'est, pour moi, c'est quelque chose de totalement différent de tout ce que j'ai entendu, sauf peut-être par rapport avec le lien avec le français, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas eu de transmission non plus. Donc, pour moi, je suis plus un praticien du Picard qu'un théoricien du Picard, de toute façon. Et pour moi, je l'utilise en tant que poète, mais... J'utilise majoritairement le français. Mes romans sont écrits en français. Il ne viendrait pas à l'idée d'écrire un roman en picard parce que ma formation, ma vie de poète, elle est basée sur des poètes qui ont écrit en français, sur des romanciers qui ont écrit en français. En picard, la littérature picard existe, mais elle est minimale par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et donc, moi, j'utilise le picard de manière orale, comme de la poésie orale pour performer, des choses comme ça. Et ça a toujours un lien avec l'émotion, avec l'enfance ou avec la vie du peuple, hein, les ouvriers, des choses comme ça. Quoi. C'est là où je peux me rapprocher, par exemple, des gens du bassin minier. Ils n'ont pas eu la transmission, mais ils parlent une espèce de picard. Ils parlent encore patois. Pour eux, ils ne parlent pas picard, si vous voulez. Ils continuent à parler le patois. Donc, voilà, c'est particulier, tout ça. Voilà. Mais... Il y a aussi Bruno Dumont qui fait des choses intéressantes de ce point de vue-là.
Pour conclure, je signalerai juste qu'il y a une littérature picarde quand même au XIIIe siècle, forte importante. La littérature française est constituée d'une grande partie. Voilà.
Le Cantilène de Sainte-Eulalie, j'ai du picard. Bah, ouais.
Bon. Voilà, on va être obligé de conclure. Merci, merci à vous.
Il faut réécrire l'histoire de la littérature française en incluant toutes ces histoires des troubadours de trucs, les picards, etc.
Mentionner que vient de paraître dans une maison d'édition qui s'appelle Au bord de l'eau, une anthologie des poètes vivants ou presque en langue de France. Voilà.
Les éditions de la librairie du Labyrinthe à Amiens viennent de publier mon seul livre en picard, qui est la totalité de mes textes en picard, du Quisson chez Viau. En bilingue, hein, en bilingue.